Chapitre 6. Les idées hugoliennes des esprits. Sommaire. Une distinction. La métempsychose. Pas d'enfer. L'expiation. Confidence du poète. Les sources érudites de la philosophie du poète et des tables. Aveu du poète. Service rendu par les tables à Hugo philosophe. Ce qui nous frappe en effet chez ces esprits frappeurs, c'est leur esprit d'imitation. Leur mimétisme ne se traduit pas seulement dans les manifestations de leur gaieté, mais dans leurs idées et dans leur style. Ils pensent et ils parlent à la manière de Victor Hugo. Ils composent sur les siennes leurs attitudes philosophiques et littéraires. Mais avant de montrer à quel point ils épousent ces idées, il convient de faire entre leurs réponses une distinction. Il y a celles qui ne présentent aucun intérêt philosophique. C'est le cas d'Annibal, nommant de leurs noms indigènes les quatre temples d'argent de Carthage. C'est encore le cas de la table répondant, Augusta, à cette question de Kessler, « Je pense un mot, veux-tu le deviner ?» Et il y a celle qui suppose l'adhésion à un certain système religieux, politique ou social. Je néglige les premières sur lesquelles je ne reviendrai qu'à la fin de cette étude, lorsque j'essaierai d'élucider le mystère des tables. Quant aux secondes, on ne peut pas ne pas constater qu'elles sont parfaitement accordées à l'état d'esprit particulier de Victor Hugo. La philosophie professée par les tables de Jersey n'est en somme qu'une systématisation de la métempsychose. C'est la métempsychose appliquée à une doctrine de rédemption universelle, ou, si l'on veut, substituée au dogme, prétendu barbare, de l'enfer. C'est un purgatoire généralisé. Les âmes survivent au corps, mais réintègrent à nouveau la matière. Réincarnation, qui est une sanction. Elle s'enfonce dans les formes inférieures de l'être, animal, minéral, ou bien elle remonte vers les formes plus parfaites de l'homme ou de l'ange, selon que leur existence présente a mérité la récompense ou le châtiment. Tout vit et pense dans le monde, à des degrés divers. Par-delà les apparences impassibles, immobiles et muettes, l'œil du spirit voit une nature toute frémissante de vie, qui saigne et qui souffre dans l'horreur aveugle de la matière ou dans la chair punie des animaux, qui s'épure et qui chante dans les hauteurs de l'esprit. Pas de peines éternelles. Surtout pas de peines éternelles. Il faut des sanctions, oui, mais pas de condamnation sans recours. La théorie de la métempsychose et des épurations renouvelées dans des incarnations successives permet de concilier l'amour et la justice. Il existe des condamnés, mais pas des damnés. Ce châtiment sera-t-il éternel ? Moïse. Tous les criminels se transfigureront lentement et deviendront des justes. Le rayonnement lointain de Dieu fondra ses cœurs de glace et leurs crimes s'écouleront en avalanche dans l'abîme du pardon divin. Séance du 8 décembre 1853. En attendant leur rentrée en grâce, tous ces criminels subissent dans leur prison de matière des châtiments proportionnés à leurs crimes. Depuis le caillou du chemin jusqu'aux astres du ciel, tout l'univers est vivant. Enfouissement universel qui est la condition et la forme de l'expiation des coupables. Par ailleurs, si mérité que soit leur supplice, il faut s'apitoyer sur leur sort, en raison même de leur souffrance. Moïse. Judas a péché en trahissant. Il est prisonnier de sa trahison. Caïn a péché en tuant son frère. Il est au carcan dans son meurtre. Séance du 8 décembre 1853. Tout souffre, tout gémit, tout travaille au supplice. Le bourreau souffre autant que le cœur châtié. Quand je mets Prométhée au haut du précipice, le vautour qui le mord me fait aussi pitié. Séance du 7 février 1854. L'esprit d'Eschyle. Victor Hugo a donné en 1854 un admirable commentaire de cette doctrine d'expiation dans « Ce que dit la bouche d'ombre, 1854, des contemplations ». Sache que tout connaît sa loi, son but, sa route. Que, de l'astre au ciron, l'immensité s'écoute. Que tout a conscience en la création. Tout parle, et maintenant, homme, sais-tu pourquoi tout parle ? Écoute bien. C'est que vent, onde, flamme, arbre, roseau, rocher, tout vit, tout est plein d'âme. Ayez pitié, voyez des âmes dans les choses. Hélas, le cabanon subit aussi l'écrou. Plaignez le prisonnier, mais plaignez le verrou. La hache souffre autant que le corps, etc. Mais bien avant les expériences de table tournante de 1853, les éléments de cette philosophie spirite préexistaient dans sa pensée. Plus d'un an avant les séances de Jersey, le journal de l'exil rapporte de lui des confidences significatives. On sait que ce journal, rédigé par sa fille Adèle, relate au jour le jour les propos tenus par le poète à ses familiers, depuis juillet 1852 jusqu'au début 1856. Or, voici ce que l'on peut y lire à la date du 17 avril 1852. L'homme souffre parce qu'il expie dans ce monde une faute qu'il a commise dans un monde antérieur. De la bonne ou de la mauvaise conduite de l'homme dépend sa rentrée dans l'existence primitive et heureuse, et de la même manière, quelque chose de la nature se transformera. La vie minérale passe à la vie organique végétale. La vie végétale devient la vie animale. Au-dessus, la vie intellectuelle. L'homme occupe le plus haut degré de l'échelle intellectuelle, échelle invisible et infinie par laquelle chaque esprit monte dans l'éternité et dont Dieu est le sommet. D'abord, les seules tendances de sa nature le prédisposaient depuis toujours à animer l'univers et à supprimer toute limite à la pitié suprême. Mais, en fait, même si ses propres réflexions n'eussent point abouti à la découverte de cette philosophie, il en eut trouvé les éléments dans ses lectures antérieures à l'exil. Delisle de Sales, philosophe aujourd'hui bien oublié, mais qui eut son moment de célébrité, avait publié un traité moral pour l'espèce humaine, ou Philosophie de la nature, réimprimé en 1804, dont Hugo possédait à Guernesey un exemplaire, ouvrage dans lequel on pouvait lire ce qui suit. Tout est sensible, les plantes sont sensibles, un arbre a des organes, tout vit, tout se nourrit, la nature n'a qu'une loi. On ne peut blesser aucun être sans outrager cette nature. Lamartine, de son côté, fait de la métempsycose une sanction et une épuration. Les naufragés de la terre, disait-il à son ami Lacretel, sont recueillis après la mort dans une autre sphère. Puis, ils retombent dans d'autres batailles, dans d'autres univers, sous un autre soleil, dans une autre épreuve. La lumineuse théorie des sphères, des incarnations sans fin dans les humanités renouvelées et des épurations successives, Lamartine, inclinait vers cette ressemblance. En 1837, n'avait-il pas écrit dans La chute d'un ange, 8e vision, en parlant de l'homme, restituant au sol l'enveloppe grossière, il dépouille en mourant ses vils sens de poussière. Selon que son travail le corrompt ou l'épure, remonte ou redescend du poids de sa nature. Quand il a dépouillé ce corps matériel, descendre ou remonter, c'est l'enfer ou le ciel. Or, Victor Hugo avait lu de fort près La chute d'un ange, et même, il s'en était inspiré plus d'une fois. Lorsqu'un an après le début des séances de Jersey, Victor Hugo affirmait qu'il était le premier dans ce siècle à avoir parlé de cette animation universelle, il se décernait donc une priorité imméritée. Dans ce siècle, je suis le premier qui ait parlé non seulement de l'âme des animaux, mais encore de l'âme des choses. Dans ma vie, j'ai constamment dit, lorsque je voyais casser une branche d'arbre, arracher une feuille, « Laissez cette branche d'arbre, laissez cette feuille. Quant aux animaux, non seulement je n'ai jamais nié leur âme, mais j'y ai toujours cru. » Le journal de l'exil, septembre 1854, d'après P. Béret, La philosophie de Victor Hugo, page 34. Mais un point essentiel de son témoignage doit pourtant être retenu. C'est l'aveu qu'il connaissait l'essentiel de la doctrine spirite avant qu'elle ne lui revînt confirmée par l'autorité du trépied. On pourrait d'ailleurs rapporter de lui d'autres aveux semblables. J'avais trouvé par la seule méditation plusieurs des résultats qui composent aujourd'hui la révélation de la table. J'en avais entrevu d'autres qui restaient dans mon esprit à l'état de linéament confus. Cela est exact au point que j'ai été un moment contrarié dans mon misérable amour-propre humain par la révélation actuelle venant jeter autour de ma petite lampe de mineur une lumière de foudre et de météore. Aujourd'hui, les choses que j'ai vues en entier, la table les confirme, et les demi-choses, elle les complète. En cet état d'âme, j'ai écrit. d'une question de Victor Hugo dans la séance du 19 septembre 1854. On dirait que les esprits de Jersey s'appliquaient à refléter les idées du poète. Quand ces esprits répondent à un nom historique, il peut exister alors de singulières contradictions entre les idées qu'ils représentent dans l'histoire et les discours que la table leur fait tenir. C'est ainsi que l'on n'est pas médiocrement surpris de voir Jésus-Christ converti dans l'au-delà à la religion de Victor Hugo. Mais notez que le poète est surpris tout le premier de ces rencontres inattendues. Ces étonnements même suffisent à écarter tout soupçon de supercherie ou de mauvaise foi. Les témoignages de ces étonnements sont nombreux dans les comptes rendus des séances. Jésus-Christ. Les tables jetteront des vérités surnaturelles dans le vrai humain. Elles prouveront la fraternité des hommes avec les bêtes, l'égalité des bêtes avec les plantes, l'égalité des plantes avec les pierres, la solidarité des pierres avec les étoiles. Elles feront monter. Séance du 22 mars 1855. Hugo, frappé par tout ce que cet animisme universel offre de commun avec sa propre philosophie antérieure et avec les vers de Magnitudo Parvi et de Ce que dit la bouche d'ombre, note ici entre parenthèses. J'ai écrit tout ceci en vers ces jours passés. Et la séance par la suite ne fera qu'accentuer ces concordances et confirmer l'étonnement du poète. Étonnement d'autant plus justifié que la table déclare ignorer les vers auxquels le poète fait allusion. Connais-tu, lui demande le poète, des vers que j'ai faits ces jours-ci et qui sont par le fond et par beaucoup de détails identiques à ce que tu viens de nous dire? Il est arrivé plus d'une fois que les êtres mystérieux qui nous parlent par la table nous ont dit connaître nos travaux. Réponse : non. Le 15 mars 1854, l'esprit qui agite la table déclare encore être Jésus-Christ. Il commence par critiquer le druidisme et le christianisme. Puis, il exalte la révélation nouvelle apportée par un mystérieux cheminot. Jésus-Christ. Un jour, tout à coup, dans le temple, un inconnu entra, vêtu de haillons. Tenant le formidable bâton de voyage de l'avenir, c'était le mendiant esprit humain. C'était le marcheur de l'ombre. C'était le promeneur des abîmes. Le faiseur de millions de lieues de l'immensité. C'était l'être qui pense. C'était le grand interlocuteur de Dieu. Séance du 15 mars 1854. Or, en marge du procès-verbal, Victor Hugo transcrit une strophe écrite par lui le 1er janvier précédent. L'interlocuteur de Dieu y figure en toutes lettres, et l'idée du mendiant sublime, sans que le mot y soit, est largement paraphrasée avant la lettre dans la définition qu'il donne du poète-prophète contre lequel s'acharne et aboie la foule grégaire. Victor Hugo. J'ai fait ces vers. Le prophète et le poète affirment l'être au néant. La terre écoute inquiète cet archange et ce géant. La foule au vil dialogue, ce tas de loups et de dogues qui rôdent sous le ciel bleu, tout ce noir troupeau qui nie aboie après le génie, interlocuteur de Dieu. Ces vers seront recueillis plus tard dans la dernière gerbe. Dans le temps que le poète humanitaire caressait le plus assidûment son rêve de fraternité universelle et d'ambassade générale, son messianisme généreux recevait l'assentiment d'un des plus notables habitants de l'invisible, l'ombre du sépulcre. Mais les formules mêmes dont le mystérieux personnage libellait son adhésion ressemblaient tellement à celles dont s'était servi le poète que celui-ci se montrait à la fois surpris et flatté de cette communauté imprévue de pensée et de langage. L'ombre du sépulcre. Un immense besoin de dévouement, voilà la loi des mondes. Le firmament, c'est la république symbolique qui mêle les astres de tous les rangs et réalise la fraternité. Victor Hugo. J'ai dit. L'avenir, c'est l'hymen des hommes sur la terre et des étoiles dans les cieux. Séance du 18 décembre 1854. Hugo est un verbal et un visuel. Il appartient à cette famille d'esprits pour qui la pensée est, comme nous disons entre pédants, conditionnée. Conditionnée par l'expression. Le mot précède, provoque en quelque façon et, pour ainsi dire, engendre l'idée. Elle ne prend corps et vie qu'à l'appel précis du mot apparu nettement et distinctement entendu. Victor Hugo parle d'abord, il pense ensuite. Il ne conçoit vraiment les choses qu'après les avoir perçues sensiblement par la vue et par l'ouïe, sous la forme matérielle du signe et du son. Les tables rendirent à sa pensée philosophique, jusque-là indistincte, le service de la lui renvoyer parler, matérialisée, et dans des conditions d'autant plus impressionnantes et plus aptes à forcer son attention qu'elles lui semblaient magiques. Sa pensée, réagissant à son propre écho, se fixe dès lors et se définit pleinement. Antérieurement aux séances de Jersey, les éléments de sa métaphysique spirite, croyance à l'animation universelle et à la nécessité d'une survie et d'une sanction, mais d'une sanction qui ne fut pas l'enfer, existaient chez lui à l'état fragmentaire et comme isolés les uns des autres. L'étincelle jaillit des tables, précipite en une vaste synthèse ses aspirations jusque-là éparses. Elles se rejoignent et s'ordonnent dans l'unité d'un système cohérent. Hugo fait ainsi un véritable progrès dans la connaissance de lui-même. Et c'est dans le premier enthousiasme de ses découvertes récentes qu'il écrit à Madame de Girardin, le 4 janvier 1855, la lettre triomphale déjà rapportée. Les tables nous disent des choses surprenantes. Paul Meurice vous a-t-il dit que tout un système cosmogonique par moi trouvé, et à moitié écrit depuis 20 ans, avait été confirmé par les tables, avec des élargissements magnifiques? Comme Narcisse, il se penche sur la fontaine tout étonné, et plus encore ravi que l'image qu'il en reçoit ressemble si merveilleusement à sa propre image. Les êtres qui habitent l'invisible, observe-t-il au cours de la séance du 19 septembre 1854, voient la pensée dans nos cerveaux. Les êtres mystérieux et grands qui m'écoutent regardent quand ils le veulent dans ma pensée, comme on regarde dans une cave avec un flambeau.